Alors, je vais poursuivre dans le champ de l'esthétique, donc en co-créativité avec Dominique Mazéas et ses travaux qui sont toujours remarquables. Dans le contexte actuel que nous connaissons d'une disqualification de toutes les formes de psychothérapie référée à la psychanalyse, qu'elles soient individuelles, groupales ou institutionnelles, la question pour nous, on le sait, c'est de savoir comment rendre compte des progrès de patients souffrant d'autisme. On dispose des travaux remarquables de Geneviève Hague et de l'équipe de Jean-Michel et de Monique Turin sur l'évaluation des psychothérapies individuelles de patients autistes et aussi de ceux d'Hélène Suarez-Labat. Dans notre centre de recherche à l'Université de Lyon, nous avons tenté de notre côté de proposer des critères d'évaluation référés à la psychanalyse pour les psychothérapies groupales. Aujourd'hui, je vais vous proposer une méthodologie d'évaluation spécifique qui est centrée sur la question de la créativité, avec notamment le repérage de l'émergence des formes primaires de symbolisation dans le soin aux patients autistes. Mon fil rouge va consister à décrire les modalités de l'émergence de ces formes primaires de symbolisation, notamment, je vais me centrer là-dessus, grâce à l'amorçage de jeu par les thérapeutes au niveau du registre sensorimoteur. Il s'agit en effet d'amorcer ou de réamorcer des jeux sensoriels archaïques pour permettre aux patients autistes, les enfants comme les adultes, de passer d'une sensorialité qui est caractérisée par une absence totale d'intégration sensorielle à des formes de composition sensorielle, on le verra, qui vont s'effectuer justement avec cette émergence de jeux sensorimoteurs partagés avec les cliniciens. Cette méthodologie d'évaluation, elle concerne deux types de cadres dispositifs. Elle est en quelque sorte réversible. On peut l'appliquer à des dispositifs individuels ou à des dispositifs de groupe. Et on peut aussi, bien sûr, l'utiliser pour des patients autistes, enfants ou adultes. Comme on parle moins des adultes, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter le travail thérapeutique d'un patient adulte dans un cadre de médiation groupale picturale pour tenter de construire avec vous un système d'évaluation qui est fondé sur le repérage de l'émergence des processus de symbolisation qui vont dans le sens de ce qu'on pourrait appeler une appropriation subjective. Cet amorçage des jeux, il se situe donc au niveau des sensorialités primitives et elles sont sollicitées directement par ce que Marion Milner appelle un médium malléable dans les cadres de médiation thérapeutique comme la peinture, l'eau, la terre, le collage. Geneviève Hague a montré l'importance avec les autistes, je la cite, de faire ou de reprendre ce qu'on fait normalement dans le second semestre de la vie, à savoir le jeu du lion, qui permet de théâtraliser la dévoration et qui constitue, dit-elle, un des paliers importants du faire-semblant. De façon générale, nous développons actuellement, je parle aussi en quelque sorte comme porte-voix groupale de nos travaux de notre centre de recherche à Lyon, nous avons développé actuellement un travail d'évaluation à partir du repérage des jeux typiques dans les thérapies en partant d'une hypothèse qui a été déployée par René Roussillon. Je la cite, « Il faut retrouver dans le processus thérapeutique, ça ne concerne pas seulement les autismes, mais tout processus thérapeutique, les traces des jeux qui, historiquement, n'ont pas pu avoir lieu, et il s'agit de les remettre en jeu. » C'est dans cette perspective que je vais essayer de vous montrer comment la relance de jeux qui n'ont pas encore été joués va permettre aux patients d'accéder aux premières formes de symbolisation. Alors, avant de vous présenter le patient, juste quelques remarques de façon générale qui concernent la clinique des bébés. On sait que dans la clinique des bébés, les sensorialités primitives, quand elles sont échoïsées par l'environnement et notamment par tout le travail d'accordage qui a déjà beaucoup été évoqué, c'est à ce moment-là que les sensorialités primitives vont donner des formes primaires de symbolisation. Sinon, s'il n'y a pas tout le travail d'accordage, ou s'il y a des défaillances dans ce travail d'accordage, ou une impossibilité à mettre en place ce travail d'accordage, cette sensorialité primaire, elle va en quelque sorte perdre sa virtualité symbolisante, et elle va rester comme en jachère, non déployée. Alors, on va voir comment cette potentialité symbolisante, elle va pouvoir être relancée, autant dans le cadre des médiations thérapeutiques que dans le cadre des thérapies individuelles, par l'introduction, par les thérapeutes, de jeux sensoriels archaïques. Il s'agit donc d'une reprise du processus inachevé, ou, on en discutera tout à l'heure, non encore commencé, des jeux partagés avec l'environnement primaire, ce qui va passer par une sorte de transfert de la sensorimotricité des patients sur le médium malléable et sur le cadre thérapeutique. Et c'est aussi, en écho à Dominique Mazéas, on pourrait dire que c'est une forme d'ouverture aux émotions esthétiques qui est au centre du transfert entre le patient, les thérapeutes et le groupe, et plus généralement au service de toute l'intégration sensorielle. Donc, je vais vous proposer, à partir d'un exemple, de voir comment l'amorçage dans un cadre thérapeutique de jeu sensoriel partagé va permettre aux patients d'évoluer d'une sensorialité désorganisée, d'une sorte de chaos sensoriel, à ce qu'on pourrait appeler, en écho avec Metzler, un mantèlement sensoriel. Une organisation du registre sensorimoteur et une sorte de comodalité sensorielle qui va se remettre en place dans le travail avec le médium malléable. Alors, le médium malléable, je le rappelle, Marion Milner l'a défini toujours à la fois comme la matière à symbolisation, pour reprendre le titre d'un de nos colloques à Lyon, mais aussi, c'est toujours le thérapeute, c'est le clinicien qui présente et qui représente le matériau dans sa matérialité. Donc, je vais vous parler du parcours thérapeutique d'un patient adulte qui a 28 ans au moment du début du groupe. C'est un patient réputé autiste chronique, je cite. C'est l'expression qui est employée dans le foyer qui le prend en charge. Et il a simplement, au début de ce groupe thérapeutique de peinture, un suivi mensuel par un psychiatre hospitalier. Aucun autre type de soin. Je vais essayer de dégager les modalités de l'émergence et de la transformation des formes picturales par ce patient à partir du repérage de ce qu'on peut appeler une chaîne associative des formes. L'associativité, vous savez, qui est au fondement de la méthode psychanalytique, c'est pas seulement l'associativité verbale, ce sont aussi toutes les formes d'associativité sensorimotrice, mais c'est aussi ce que j'ai proposé d'appeler l'associativité formelle, c'est-à-dire la façon dont vont s'enchaîner les logiques de l'enchaînement de la production des formes dans le lien à un matériau, c'est-à-dire toujours à une matière et au thérapeute, c'est indivisible. Donc la clinique que je vais vous présenter, elle vient d'un groupe thérapeutique de recherche que j'ai mis en place dans le cadre d'un des grands centres hospitaliers psychiatriques de Lyon, avec des patients adultes réputés autistes chroniques. Alors, nous avions un double objectif. L'objectif de voir si une évolution était possible grâce à un groupe thérapeutique à médiation, et c'est une des raisons pour lesquelles le patient que je vais vous présenter, il n'est plus pris en charge à l'hôpital, sauf par cet entretien mensuel. Il n'a aucun autre soin thérapeutique que ce groupe de peinture. Et aussi, l'objectif, c'était d'essayer de définir avec précision des critères d'évaluation qui mettent en jeu les processus, qui dégagent les processus à l'œuvre dans la thérapie, avec l'idée qu'on avait beaucoup travaillé sur les enfants, c'était aussi de voir si c'était les mêmes indicateurs, les mêmes critères chez les enfants et chez les adultes. Donc c'est une évaluation qualitative que je vais présenter, centrée sur le repérage des processus. Je ne vous parlerai pas de la cotation aujourd'hui, Ce groupe, il est animé par trois psychologues-chercheurs. Ce sont des psychologues-chercheurs en cours de doctorat. À l'intérieur de ceux-ci, il y a une psychologue de l'hôpital psychiatrique, pour faire le lien. Deux jeunes psychologues-chercheurs extérieurs à l'institution. Il y a deux animateurs du groupe et un psychologue-chercheur qui est dispositif écrivant. Pour ce qui est de ma classe, moi, j'assure l'intervision de ces trois psychologues-chercheurs une fois tous les 15 jours. Ce groupe de médiation picturale, il a lieu dans les locaux de l'hôpital, une fois par semaine. Les patients arrivent en taxi de leur foyer ou de leur lieu de vie et ceux qui sont hospitalisés sont accompagnés par des soignants. Donc, dans ce groupe, nous avons quatre patients qui souffrent de pathologies très lourdes, des autismes typiques, une psychose grave sur un versant autistique. Deux des patients sont sans langage, deux autres ont accès au langage verbal. Et aujourd'hui, je vais évoquer seulement le patient que j'ai appelé Joris. Si l'on se positionne trop près de lui, c'est ce qu'on va découvrir au début du groupe thérapeutique, il s'auto-mutile, il se pince, il se gratte. Il ne parle qu'en écolalie de syllabes et il chantonne. Il est vécu à la fois comme très fascinant et comme très inquiétant par le psychologue. Alors, pendant... c'est un groupe de recherche qui vient de se terminer, il a duré 3 ans, 3 mois. Et pendant 2 ans et demi, vous allez voir que Joris va effectuer une peinture multisensorielle, non représentative, mais on va tâcher de repérer déjà les indicateurs de symbolisation à partir de l'évolution des formes. Et on va voir comment il est passé d'une sorte de chaos sensoriel à des formes représentatives imagées, à des visages, avec des contenus figuratifs. Au premier groupe, il faut beaucoup solliciter Joris pour qu'il s'assoie et qu'il commence à peindre. Il superpose sa feuille à celle de son voisin. Il peint en bleu comme lui. On est dans l'identification adhésive. Il alterne les moments de peinture avec des moments où il chantonne des mots difficilement compréhensibles, mais on finit par reconnaître le mot tétille, tétine, car il prend les tubes de gouache, il les porte à sa bouche et il essaie d'avaler la peinture. Il est très mobilisé par sa découverte d'une mousse. Tous les objets pour panne sont à disposition, les patients qui les choisissent librement. Donc, il tamponne doucement sa feuille de peinture avec cette mousse et il utilise de la peinture très, très liquide. Il nous semble que dans un premier temps, Joris va vivre la rencontre avec ce dispositif de médiation picturale comme une rencontre, c'est ce qu'il va nous montrer dans les premières séances, avec une tétine gouache. Première forme primaire de symbolisation, on peut penser à ce que Pierre Aoulagnier appelle un pictogramme de jonction, c'est-à-dire quelque chose qui relève d'une indifférenciation totale entre le corps du patient, la matière picturale et l'espace intérieur. Dès la seconde séance, le patient va reprendre cette même peinture. Elle était très liquide et informe à la première séance, dont vous avez la photo. Je n'ai pas de photo de la deuxième séance parce que après avoir travailler la peinture, il l'a mise en miettes. Donc, il n'y a pas de photo, on n'a pas eu le temps de la prendre. Donc, à la deuxième séance, il va donner un aspect de croûte à cette première peinture en ajoutant de la matière. Donc, on a un processus de figuration de la forme au début qui alterne entre une liquidité qui dilue la forme, tout disparaît, tout tend à s'effacer, et dans un second temps, des croûtes en miroir, on associe avec les croûtes sur le corps du patient. Il peint en chantant et dansant, avec un battement assez soutenu, style rap. Alors, je ne saurais pas vous le faire, peut-être que vous y seriez sans doute mieux arrivé que moi. Je vous dis ce que ça donne. Voilà, tout le groupe est rythmé par ça. Alors, dans cette première séance, on repère déjà les premiers linéaments, en quelque sorte de l'activité avec les formes. Il y a d'abord une sorte d'irréversible destruction de la forme. On peut essayer de l'exprimer de la façon suivante. ça se dilue, ça s'efface, ça se dissout, ça se liquéfie sans fin, ça se déforme, ça se détruit, ça se déchire aussi, et ça fait une croûte. Ce sont des vécus, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de sujet, parce que ce sont des vécus sans sujet, ce sont des impressions corporelles qui vont s'imposer en quelque sorte sous la forme d'un vécu hallucinatoire qui correspondent à des sensations de mouvement et de transformation. Dominique Mazéas a parlé tout à l'heure de l'esthétique du mouvement. Il s'agit donc de formes primaires de symbolisation qu'on peut rapprocher de ce que Didier Anzieu appelle les signifiants formels. Les signifiants formels, ce sont des formes de représentation où la forme est ressentie comme étrangère. On n'est pas sujet des transformations de la forme, ce sont des impressions sensorielles qui traversent, et c'est pour ça qu'il y a une formulation sans sujet humain. Ça correspond en quelque sorte à des sensations hallucinées, à des expériences primitives qui vont se mettre en forme, se figurer dans la peinture, se mettre en forme dans des formes primaires de symbolisation. Ça renvoie la plupart du temps à des vécus primitifs catastrophiques. Didier Anzieu dit que c'est de l'ordre de la survie psychique. Donc on voit dès la première séance que ce qui se figure d'abord, c'est les terreurs primitives du patient, terreur de liquéfaction notamment, et dans la deuxième séance, c'est la carapace, la nécessité de se protéger par la construction d'une carapace. À d'autres moments, on relève aussi chez Joris un lien extatique, sensoriel au médium. Ça cohabite un peu. Et on peut dire que la première étape du processus de symbolisation, c'est d'essayer de figurer les processus qui, justement, font qu'il y a une absence de figuration, c'est-à-dire toute cette liquéfaction, toute cette dissolution, tout ce sentiment de non-existence qu'évoquait Chantal Lheureux ce matin. Alors, lors de la 23e séance, une étape mutatrice dans la peinture de Joris. Il commence à inclure dans la figuration picturale les traces des liens qu'il a avec le groupe. Alors, dans la séance où il a fait cette peinture, il sautille, il chantonne, et il va former un cercle avec des chaises, et chantonner et danser avec sa feuille de peinture. Il saute et virevolte au-dessus de l'atelier. Les psychologues disent qu'il est très aérien, que la pesanteur ne semble pas jouer pour lui, et qu'il y a un chant, des petits cris, qui accompagnent la rythmique de ses pas de danse. Pour la première fois, il ne représente pas ce que Geneviève Hague appelle des traces sans retour, qui ne reviennent pas, mais il va matérialiser un contour. Il effectue des traces rythmiques par un pointillage, ce qui renvoie, toujours selon Geneviève Hague, à l'idée qu'il y a un renvoi possible de l'objet, et ce n'est pas étonnant dans la mesure où, depuis le début du groupe thérapeutique, les thérapeutes travaillent en accordage et en transposition sensorielle avec les patients. Donc, c'est lui qui va reprendre, cette fois, l'accordage qui est fait par les thérapeutes depuis le début. Il va associer sa gestualité sautillée à son chant rythmé et à la rythmicité du pointillage. Et c'est aussi la première fois qu'il va reprendre dans son chant la première syllabe de mots qu'il entend par les deux patients qui sont parlants. Et il a une façon d'entrer dans la chaîne associative du groupe par le sonore. Il apparaît de plus en plus fasciné par l'écho, par le rebond, pas seulement vocal, mais le rebond du pinceau, de la mousse, toute sa gestualité change, et c'est un rebond qui l'accompagne de vocalisation crescendo ou décrescendo, avec un accordage spontané qu'il fait de gestes rapides ou de gestes plus lents. Donc il transpose la question du rebond du vocal au pictural, et il reprend différé les cris d'une autre patiente, mais en débutant plus bas, et il va décrescendo comme un écho qui se perdrait. J'ai aussi centré un peu sur la question du vocal en pensant à votre intervention pour qu'on travaille aussi entre nous en comodalité sensorielle. Donc, voyez hein, comment il effectue un jeu de transposition sensorielle, une sorte d'accordage modérateur, et comment ce qui est activé désormais, ce sont les modes de symbolisation par transmodalité sensorielle, du vocal, du mimo-gestuel au pectoral. Alors, du côté de l'associativité formelle, il y a aussi un changement, parce que la matière n'est plus intransformable. Elle devient transformable, travaillable, on n'est plus dans le magma de matière comme au début du groupe, on est dans une différenciation des couleurs, un peu des textures, et on passe dans un autre type de travail. À partir de là, Joris va peindre régulièrement une forme de grosse croûte molle, fragile et parfois qui semble un peu ensanglantée. Alors, il colle désormais, il y a un changement, le sable dessous dans sa peinture et du coup, la matière tient sur le fond. On n'est plus dans la liquidité et dans l'écoulement. Il repeint une fois qu'il a mis le sable avec le rouleau et du coup, ça devient une sorte de couche externe granuleuse. Il y a des grains et ça tient sur la feuille. Le fond commence à se constituer, hein, même si pour l'instant, sa peinture, elle nous fait plus penser quand on associe à des marécages, à des sables mouvants un peu asséchés, à un début d'îlot qui sort de la mer. Donc, on a une évolution des signifiants formels, hein, de ça aussi, ça arrache, ça écorche, de croûte, à ça s'agglomère, ça se solidifie, ça sèche, ça se transforme en pâte. On a tout un jeu sur la transformation de la matière. Alors, voilà une séance où le psychologue essaie une nouvelle forme d'abord de Joris, et je l'ai choisi en écho au travail sur le respiratoire de Dominique Mazias. Le psychologue s'est aperçu que chaque fois qu'il s'avance près de Joris, le patient se gratte, se pince, la jambe, le bras. Et donc, il se dit qu'il lui fait vivre une forte intrusion corporelle. Il a l'impression d'être une épine, une écharde sous la peau du patient que le patient tente d'arracher. Alors, il va choisir pour l'aborder une nouvelle modalité sensorielle, l'aérien. Et dans cette peinture, enfin, on le voit un peu au centre, le psychologue va rester à distance, mais il va souffler en rythmant des grains de sable sur la feuille. Et ça va fasciner le patient qui va reprendre ce travail-là dans les séances qui suivent. Et du coup, il va aussi rythmer, souffler sur les grains de sable et le médium va devenir partagé dans cette modalité aérienne dans les séances qui vont suivre et le patient va tolérer que le psychologue s'approche de lui peu à peu. Alors, voilà, c'est après 2 ans et demi de groupe, j'ai concentré pour bien rester dans la demi-heure. Joris, comme vous le voyez, il utilise beaucoup le rouleau. Il a construit un fond rythmique avec l'utilisation des rouleaux et toujours un pointillage qui reste ici en rouge et un peu en bleu. J'ai choisi cette peinture parce que, je ne sais pas si vous pouvez la discerner au centre, c'est la première apparition d'un visage avec les yeux, la bouche en bleu et une sorte de contour flou. Le visage apparaît dans le sable, autour. Alors, on est tous perplexes, les trois psychologues et moi. On s'est dit, est-ce que c'est nous, pas nous, finalement, qui hallucinons ce visage Mais c'est vrai que les premières apparitions de visage, autant chez les enfants que chez les adultes, elles nous font souvent vivre ça. C'est-à-dire qu'on a un visage qui apparaît et qui disparaît en même temps, qui vient et qui se retire, un peu comme les visages dans la peinture de Michon. Donc, les thérapeutes vont proposer des jeux en miroir autour de leur visage et du visage de Joris et du visage sur la feuille. Il y a une sorte de théâtralisation très jubilatrice de la découverte des yeux, du nez, de la bouche, et on va continuer. Alors, voici, donc, quelques temps après, dans le contexte de ces jeux autour du visage, il va peindre ses 4 têtes, visage en rouge. 4 visages comme 4 patients, évidemment, et c'est la première fois qu'on a une apparition nette de forme sur un fond. Dans un premier temps, les patients dans un groupe thérapeutique de peinture, ils reconstituent ce que Geneviève Hague a appelé le premier fond rythmique, avec les traces rythmiques en aller-retour sur la feuille. Et dans un deuxième temps seulement, il y a ce que j'ai appelé le détachement de la forme sur le fond. Et il aborde ce deuxième temps avec les visages. Et avec, vous pouvez remarquer, ça va se poursuivre quelques temps, le visage à droite, il l'a bien peint dans un premier temps, et ensuite il le recouvre, il a effacé la bouche et les yeux, et on a toujours dans un premier temps, là, on a la mise en place du jeu de détruit-créé qui apparaît et qui va se poursuivre. Quatre visages à nouveau, avec deux visages plus flous à droite. Hein. Alors nous associons sur sa partie autistique et sa partie qui émerge de l'autisme. Alors voici deux peintures qui ont été effectuées dans la même séquence. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il peint un visage tout seul et ensuite le groupe des quatre visages. Hein, et il nous montre en quelque sorte dans sa peinture comment le sujet singulier, il émerge sur le fond groupal. En même temps qu'au niveau technique, on peut remarquer dans le contour du visage quelque chose qui s'apparente aux formes radiaires qui ont été décrites par Geneviève Hague. Et en même temps, il utilise beaucoup plus les matériaux qui sont à sa disposition. Là, il n'y a pas seulement le sable, mais vous voyez à gauche, il y a aussi le coton. Voilà, un autre type de... Vous pouvez remarquer que les techniques de représentation se modifient de plus en plus au fil du temps. Là, on a deux diapos qui correspondent à la même séance, toujours une alternance entre clair et sombre, mise en place des contrastes, des différences. Ça, à gauche, ces deux peintures ont été faites dans la même séance. Ce sont les premiers bonhommes complets qui apparaissent sous la forme d'une superposition de visages. Ce sont des bonhommes-visages en quelque sorte, hein, et ça se théâtralise toujours avec les psychologues dans l'atelier, hein, autour pas seulement de la tête, mais de toutes les parties de corps. C'est Chantal qui parlait tout à l'heure, hein, du patient qui était dans une seule partie de corps, là on a l'impression qu'il commence à habiter l'ensemble de son corps. J'ai terminé, hein, c'est la dernière peinture. Voilà, la dernière peinture, j'ai deux minutes, j'ai terminé en trois minutes. Hein. Dernière peinture du groupe thérapeutique. Alors, ce qui est apparu surtout à la fin, ce sont les dents, hein, qui sont, prennent une place de plus en plus énorme. Et vous voyez qu'il est sorti complètement, en même temps il est beaucoup plus en interaction émotionnelle avec le groupe, il n'est plus dans son retrait passif, il peut dévorer, il peut mordre, on pense au jeu du lion, qu'on joue effectivement beaucoup à cette période, et c'est aussi la période où il peut vraiment nous dire quand il n'est pas content, hein, et sans trop détruire. Et j'ai oublié de vous le dire, le langage était apparu, ou si les mots étaient apparus. Alors, pour finir, je ne vais pas déployer d'autres exemples du jeu, je vais vous proposer juste une partie, c'est ma conclusion de la présentation de ce tableau, une partie du tableau d'évaluation à partir des jeux. C'est une partie et il n'y a pas la cotation, hein, c'est juste le repérage des processus. Alors j'ai dégagé là dans ce tableau quatre formes d'opérateurs du jeu. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de stade, hein, ça peut être simultané, mais ça correspond tout de même, la logique que je vais dérouler, à une logique de transformation des processus au fil du travail thérapeutique. Donc, ça peut faire écho avec ce qu'on a vu pour Joris. D'abord, des jeux d'exploration sensorimotrice et de mentalement sensoriel, ce que j'ai proposé d'appeler les jeux intersensoriels. Jeu avec les sensations hallucinées, mais on est dans les processus sans sujet. Réactualisation des vécus d'agonie primitive, dirait Winnicott. Du côté de la matière, on est dans l'intransformable, de la forme, destruction irréversible. Et les thérapeutes introduisent des jeux de transposition sensorielle et des jeux rythmiques de construction sensorimotrice dont je parlerai une autre fois. Il y a une thèse qui vient d'être soutenue à Lyon par Corinne Liozon sur cette question-là. Ensuite, le jeu avec les formes sensorimotrices. C'est là qu'on trouve les formes primaires de symbolisation. Ce sont tous les jeux d'associativité formelle dont je vous ai parlé, qui correspondent à la transformabilité des états de la matière et à une réversibilité, cette fois, de la transformation des formes. Ça apparaît, ça disparaît, ça réapparaît, par exemple. Hein. Ça se plie, ça se déplie. Hein. Ça se colle, ça se décolle, etc. Troisième étape, hein, ce sont tous les jeux de miroir sensoriel où on passe de là aux jeux sensorimoteurs en boucle. Donc là, on est plus dans des jeux intersubjectifs. On a tous les jeux de miroir, sonore, visuel, tactile, les jeux de théâtralisation, les jeux sensorimoteurs en double. Et dernier point, alors évidemment que Joris, il est tout de même arrivé un peu là, hein, au jeu intrasubjectif avec réflexivité, puisqu'il a commencé à jouer avec les mots, qu'on a eu l'impression qu'il devenait sujet de la transformation des formes, hein, qu'il était, et qu'il a tout de même arrivé à faire des formes représentatives avec contenu figuratif. Pour conclure, donc, les jeux sensoriels archaïques, ils activent une relance de la virtualité symbolisante des sensorialités primitives. Ils vont déployer leur potentiel dans la mise en forme d'une matière, matière pour symboliser, et aussi dans ce qu'on pourrait appeler toute la chorégraphie des accordages avec les thérapeutes. J'espère vous avoir montré comment les médiations thérapeutiques avec le jeu sur les formes, elles permettent de passer de processus sans sujet à l'émergence d'un sujet qui enfin peut se voir, s'entendre et se sentir. Je vous remercie.